Les voix.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. 13 ans après la vie sexuelle de Catherine M., suivie de Jours de souffrance en 2008, voici le troisième volume de l'autobiographie de notre invitée aujourd'hui, publié sous le titre « Une enfance de rêve » aux éditions Flammarion. Un récit qui, après les ébats physiques du corps, après l'âme torturée par la jalousie, explore ici un nouveau territoire, celui des jeunes années, un temps et un espace qui forment un autre tableau de la même existence, mais où se dessine surtout la genèse du désir d'écrire. Bonjour Catherine. Alors, j'allais dire, comme tout le monde, Catherine Millet. Et puis, dans ce livre, à deux reprises, vous précisez qu'en fait, votre nom doit se prononcer Millet. Comment dois-je vous présenter ?
Non, mais en fait, ça, si vous m'appelez Catherine Millet, je répondrai quand même à vos questions. Hein. Mais mon père disait Millet, et quand ça m'arrive de rencontrer, de croiser des gens qui portent le même nom que moi, il me confirme que la prononciation, comme souvent pour les noms propres, est un peu particulière, un peu spéciale. Donc en principe, il faut dire Millet. Mais Millet me gêne pas du tout.
C'est vrai que ça peut sembler anecdotique, mais en fait, ce petit détail de prononciation vous sied bien, parce que d'un côté, il y a la femme publique, critique d'art, fondatrice du magazine Art Press, grande connaisseuse de ce marché. Et puis de l'autre, il y a la femme intime dont le projet littéraire est de raconter tout, de dire tout sans tabou, sans mensonge, sans romanesque, une sorte de dédoublement de soi. Est-ce que finalement c'est en effet par l'écriture que vous appréhendez la réalité de votre vie?
Ah bah oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, je ne suis pas la première à dire ça, c'était ce que disait aussi Marcel Proust, c'est que la vie réellement vécue, c'est la vie qu'on a reparcourue grâce à l'écriture. Et en fait, très souvent, lorsqu'on est dans le moment de l'événement, je crois qu'on a, on n'a pas toujours la faculté, comme ça, d'en jouir complètement. Si c'est un événement heureux, par exemple, et si c'est un événement malheureux, on n'a pas non plus la possibilité de le comprendre et d'y trouver tout de suite de quoi supporter cette douleur. Donc en fait, c'est le reparcourir, oui, à travers l'écriture qui fait que, bah, voilà, on s'aperçoit qu'on a une vie avec ses moments heureux, ses moments malheureux, et qu'en fait, à mon avis, toute vie peut rentrer dans un roman.
Donc, la vie vécue par Catherine Millet devient la vie écrite de Catherine Millet ?
Ah oui, on peut dire ça aussi, parce que forcément, en fait, ce que vous mettez dans le livre, alors c'est encore plus vrai pour celui-ci qui porte sur l'enfance. Évidemment, je suis détachée depuis assez longtemps, en tout cas pour une part, de celle que j'ai été il y a 50 ans, mais ou 60 ans même, puisqu'il y a beaucoup question aussi de la petite enfance. Mais en même temps, je dirais que c'est aussi une façon peut-être de mieux se comprendre quand même, et de mieux comprendre les rapports qu'on a eus avec les autres, et finalement de mieux comprendre les autres. Vous savez, les gens qui écrivent comme moi ce qu'on appelle de l'autofiction, ou en tout cas de l'autobiographie, comme ça, sont souvent accusés de narcissisme. Et moi, je m'élève toujours contre cette accusation, parce que je pense que à travers la connaissance qu'on acquiert de soi-même, on comprend aussi beaucoup mieux les autres, et finalement la manière dont on les raconte aussi, parce qu'on parle pas que de soi, on parle de ceux qui vous entourent, qui vivent avec vous, et on les comprend mieux, et du coup on en parle mieux aussi.
Je disais pour commencer qu'une enfance de rêve était le nouveau volet d'un triptyque littéraire. Vous avez raconté d'abord votre vie sexuelle très libérée avec de multiples partenaires, puis la terrible jalousie que vous avez éprouvée en découvrant les infidélités de votre mari. Et aujourd'hui, vous vous remémorez vos 18 premières années. Bien sûr, cela complète le tableau pour nous lecteurs, mais pour autant, est-ce que c'est une nouvelle pièce de votre puzzle identitaire, ou est-ce que ce récit est une sorte de révélation, entre guillemets, dans le sens où, dans ce livre, vous racontez combien très jeune vous aimiez beaucoup lire, que finalement vous avez eu une vocation d'écrivain assez précoce, alors que vous n'êtes passé à l'acte d'écrire, en l'occurrence votre vie, hein, que très tard, comme s'il avait fallu attendre une enfance de rêve, voire 2014, pour vraiment accepter ce qui vous constitue depuis si longtemps.
Ah oui, en fait, j'écrivais quand même, hein, puisque mon métier, c'est d'être critique d'art.
Oui, mais vous écriviez sur les autres.
J'écrivais sur les autres, mais j'étais, je crois, tellement habitée. Depuis l'enfance, depuis cette petite enfance qui est racontée dans Une enfance de rêve, tellement habitée par l'idée que ce que je voulais faire, c'était écrire. Écrire quoi? J'en savais rien d'ailleurs. Je ne savais pas si j'allais écrire des romans ou autre chose. Que ça me préoccupait pas plus. Bon, je publiais des livres sur l'art. Et je savais bien quelque part à l'arrière de ma tête qu'un jour j'écrirais autre chose. C'est pour ça que j'étais pas si pressée finalement. Qu'un jour une opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Bon, très bien. Et ça portait sur ma vie sexuelle. C'était une commande. La vie sexuelle de Catherine M. C'était une commande de Denis Roche, mon éditeur. Bon, voilà. J'ai quand même vécu les 49 premières années de ma vie sans avoir en effet écrit d'une façon très personnelle, mais persuadée que je le ferai un jour. Voilà.
Mais en écrivant Une enfance de rêve, là, vous, vraiment, vous êtes devant cette révélation.
Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé, c'était un des objectifs de ce livre, c'était d'essayer de répondre à cette question, comment vient à une enfant l'envie, d'abord le goût des livres, le goût de la littérature, et du coup, le goût d'écrire aussi. Et ce que j'ai compris, alors d'abord, j'ai fait un premier constat, et ça, je crois que tout le monde peut le faire à ma place, c'est que enfant, on mélange tout. On mélange aussi bien les livres d'aventure qu'on vous offre, qui sont des livres écrits spécialement pour les enfants. Et puis, si on attrape comme ça un Balzac, un Zola ou un Dostoïevski dans la bibliothèque des parents, eh ben, on se passionne pour ça de la même façon, exactement. On fait à peine la différence. Et puis, le goût d'écrire, alors, c'est parce qu'on est tellement bien dans la lecture de tous ces livres et ce qui était mon cas, il vous console tellement de la vie qui par ailleurs peut être un petit peu chahutée, difficile, etc., qu'on n'a pas envie de quitter ce monde-là et qu'on se dit que peut-être si soi-même on se commence à écrire des histoires, eh bien on restera dans ces histoires-là. Elles vous protégeront en quelque sorte des choses qui sont difficiles dans la vie et qu'on a déjà sous les yeux, voilà, déjà quand on a 7-8 ans, quoi, en fait, qu'on commence à comprendre les choses.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Catherine Millet qui vient de publier Une enfance de rêve, un livre dont voici le décor et le propos en quelques mots. Donc nous sommes dans les années 50, en banlieue parisienne, vous êtes l'aînée, un petit frère Philippe a 3 ans de moins que vous. En grandissant, vous vous battez tout le temps dans un climat un peu violent, vos parents ne s'entendent pas du tout, ils crient aussi. Votre père, après 5 ans de captivité pendant la guerre, n'est plus aimé par votre mère. Ils vont voir ailleurs, chacun de leur côté. L'appartement est exigu, la grand-mère dépérit. Bref, En quoi c'était une enfance de rêve, Catherine Millet?
Oui, bah c'était une enfance des rêves dans lesquels j'allais me réfugier justement. Bon, et puis en fait, bon, oui, bien sûr, il y a de l'ironie dans ce titre, mais je regrette pas l'enfance que j'ai eue. D'abord parce que quand même j'y ai trouvé des joies qui étaient, comme je disais, ceux de la lecture ou ceux des histoires que j'inventais, que je racontais à mes copines. Je me faisais mousser comme ça à l'école en inventant des histoires que je racontais. Donc pour ça, j'étais pas trop mécontente, mais parce qu'en fait, je suis sortie de cette enfance, comment dire, sans ressentiment vis-à-vis de mes parents. Après tout, d'abord, ils m'aimaient, c'est très important, et je le sentais. Et même si je les sentais aussi très occupés ailleurs par leurs propres histoires, entre eux, de détestation et d'amour ailleurs, bon, ils aimaient quand même leurs enfants. Leurs enfants n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Et en tout cas, ça a été une manière, ils l'ont peut-être pas voulu comme ça, mais une façon de les préparer à la vie. Moi, je suis rentrée dans la vie, je savais à quoi m'en tenir en quelque sorte, et je suis pas allée de désillusion en désillusion. Je savais comment ça pouvait se passer. Bon, et finalement, comme je m'en suis pas trop mal tirée, je me dis c'était une assez bonne leçon que j'ai reçue. Donc c'était une enfance de rêve.
C'est un récit qui n'est pas chronologique, qui raconte plein de petites histoires, d'anecdotes, de sensations énormément, et qui relève plus des associations d'idées comme en psychanalyse, mais plutôt dépourvu de sentiments, comme si vous étiez une scientifique, une entomologiste penchée sur un petit monde d'insectes que vous décrivez avec une certaine distance. Est-ce que vous avez refoulé vos propres émotions en écrivant?
Alors, j'essaye de pas trop m'attarder sur les sentiments parce que je crois que c'est une matière très très difficile à attraper, les sentiments. On peut éprouver tel sentiment par rapport à telle personne à un moment donné précis, et puis ce sentiment se retourne en autre chose après. Donc c'est très difficile. Et puis est-ce qu'on est toujours sûr de ses sentiments? Soi-même, on n'est pas toujours sûr de soi. Bon, moi, alors, j'ai remarqué que vous employez le mot de sensation, et c'est un mot qui me plaît. C'est-à-dire, je préfère rendre compte des sensations. Qu'est-ce qu'on a éprouvé sur le moment? Et après, libre au lecteur, comme je l'ai fait moi-même, d'interpréter ces sensations et de voir quels sont les sentiments qu'elles peuvent cacher ou qu'elles peuvent, au contraire, exprimer.
D'une certaine façon, c'est un livre tombeau. Votre frère est mort d'un accident de voiture très jeune, votre père d'un cancer, votre grand-mère de vieillesse et votre mère a sauté d'une fenêtre. Est-ce que ce livre est aussi celui du deuil de l'enfance et de ceux que vous avez aimés?
Non, je crois que non. Ce travail du deuil, il est fait depuis longtemps. Leur mort à chacun d'eux, malheureusement, elle date d'il y a longtemps. Non, je dirais que c'est au contraire, en fait, une manière de leur offrir une survie, en fait. Je crois que j'ai compris ça. J'ai pas entrepris le livre en me disant, voilà, je vais faire revivre ma mère, mon père sous mes yeux. Mais au fil du travail, je me suis rendu compte que finalement j'étais assez contente comme ça de faire en sorte que ces gens qui avaient eu quand même une vie difficile aussi, hein, ils ont eu 20 ans pendant la guerre, après il a fallu faire face aux difficultés de l'après-guerre, etc. Ces gens qui avaient une vie difficile, puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont eu une vie difficile. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu, et voilà. Et aujourd'hui, leur fille, finalement, qui écrit, leur offre cette survie. C'est voilà, c'est plutôt ça que je me suis dit. Et quand je vois aujourd'hui, quand il y a des articles en ce moment sur mon article dans la presse et que c'est illustré avec des photos de ma mère, par exemple, je me dis mais c'est formidable que ma mère, voilà, ait son visage sur une page de magazine. D'une certaine façon, oui, elle survit à elle-même et elle survit à cette vie tellement, tellement difficile qu'elle a eue. Quoi.
Et votre père qui disait Catherine Millet de l'Académie française,
oui. Ah, il aurait été heureux de lire ça. Il aurait été heureux, je ne pense pas que je rentrerai à l'Académie française, mais en tout cas, oui, il aurait été heureux de voir que sa fille devenait un écrivain et un écrivain un petit peu reconnu. Donc oui, bien sûr, oui.
On disait tout à l'heure combien, enfant, vous étiez très croyante, vous vouliez épouser Dieu, devenir religieuse. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Dieu, de la vie sexuelle de Catherine M?
Qu'est-ce qu'il aurait... Mais alors, je suis sûre que Dieu aurait été très... comment dire? Il m'aurait absous, je suis sûre. En tout cas, il aurait compris, puisqu'il comprend tout, quel avait été le parcours de cette jeune femme, ce qui l'avait amenée à avoir cette conduite. Il aurait vu que dans cette vie de libertine, Après tout, elle a pas fait de mal à qui que ce soit, en tout cas pas pas volontairement et jamais très gravement. Non, je suis sûre qu'il aurait été d'une très grande tolérance.
Alors justement, ce livre est donc réédité au Seuil dans une édition augmentée avec des facsimilés de vos brouillons, de vos planches de travail, une postface de vous et plusieurs textes critiques dont l'un de Mario Vargas Llosa, l'écrivain péruvien prix Nobel de littérature. Est-ce que 13 ans après la première publication, vous avez relu le texte
pour
cette réédition ?
Non, j'ai reparcouru ces pages de brouillon parce qu'il fallait quand même effacer les noms propres réels qui y figuraient. Je relis ce que j'ai écrit.
Pourquoi ?
Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de gens, d'écrivains qui disent ça. Relire une chose que vous avez écrite des années auparavant, vous vous dites, mais je pourrais jamais écrire encore comme ça. Quand même, j'ai dit le maximum de ce que je pouvais dire. D'abord sur ce qu'était ma sexualité, sur ce que j'avais ressenti à travers cette vie de libertine. Donc en fait, ça vous met en face d'un maximum de vous-même qui fait un petit peu peur, quoi, en fait, qui vous renvoie à votre finitude finalement. Vous dites, j'ai écrit ça, je pourrais plus jamais écrire une chose pareille, et ça vous met face à la mort, moi je dirais.
J'ai l'impression, Catherine Millet, que vous, tout votre travail littéraire tend aussi à ouvrir la porte de la cage dans laquelle on peut se sentir enfermé, que ce soit la cage familiale, la cage sexuelle, la cage identitaire.
Oui, d'une certaine façon, on ouvre sur des régions de l'être humain qui n'ont pas encore été ouvertes et qui permettent... là aussi de se confronter aux autres. Moi, très souvent, quand j'écris en me disant, bon, voilà, moi je raconte mon histoire avec en arrière-pensée de m'adresser au lecteur pour lui dire, et vous, comment ça s'est passé pour vous ? Voilà, en fait, c'est ça. Et par exemple, pour une enfance de rêve, il y a des souvenirs sur la toute petite enfance, sur vraiment la découverte de l'espace, la première fois que je suis allée au bord de la mer, etc. Bon, c'est presque rien. Bon, c'est pas une expérience capitale de découvrir la plage, le bord de mer, lorsqu'on est un tout petit enfant comme ça. Mais moi, ça m'a laissé un souvenir très très vif. Et en fait, si je l'écris, c'est pour, dans l'espoir, comme ça, toujours, qu'un lecteur va m'écrire et me dire, ah mais vous savez, ça m'a rappelé moi-même la première fois que mes parents m'ont emmené au bord de la mer. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai... voilà ce qui m'a plu, etc. Bon, j'écris avec cet espoir toujours bon, qu'en fait les lecteurs vont se mettre à écrire aussi et me raconter leur propre histoire. J'ai cette curiosité, et je dois dire que avec la vie sexuelle de Catherine M, j'ai été comblée parce que j'ai reçu beaucoup 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 de lettres où les gens me parlaient de leur sexualité, m'en parlaient d'une manière très ouverte. Là aussi, ils s'ouvraient, voilà. Ouais. Et j'ai adoré lire tout ce courrier. J'ai adoré ça. Ouais. Je suis très curieuse.
Donc l'écriture en partage.
Ah oui, complètement. Oui. Et j'aime lire ces longues lettres comme ça que parfois les lecteurs vous adressent et où ils vous connaissent pas, ils vous ont même jamais vu en vrai, mais ils vous font confiance. Ils se disent, tiens, celle-là, elle peut lire ou écouter ce que j'ai à lui dire. Et d'abord, cette confiance vous honore. Et puis surtout, ça vous apprend des choses sur les autres que vous soupçonniez pas forcément. C'est formidable, oui.
Merci beaucoup.
C'est moi,
Catherine Millet. Je rappelle que ce livre s'intitule « Une enfance de rêve » qu'il a paru aux éditions Flammarion et que on peut lire ou relire la vie sexuelle de Catherine M dans cette nouvelle édition au Seuil. Cette émission est bien sûr disponible à la réécoute sur le site de RFI.fr à la page Littérature sans frontières ainsi que sur Facebook et Twitter. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures et restez avec nous à suivre un nouveau journal sur Radio France Internationale. Au revoir.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.